Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'a rien tout devant derrière. On l'a tout devant derrière. Tout à fait, on l'a tout devant derrière.
Ok.
Chères auditrices et auditeurs de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, bonjour à vous. À bord de Persévérance, nous sommes toujours dans le fjord de McMurdo, à l'extrême sud-ouest de la mer de Ross en Antarctique, dominé par le volcan Erebus. Dans la précédente chronique, nous avions évoqué l'historique de cette zone, d'où partirent les premiers explorateurs en route vers le pôle sud au début du XXe siècle. À présent, nous nous intéressons aux bases scientifiques actuelles qui s'y sont développées depuis les années 60. La station américaine de McMurdo et la station néo-zélandaise Scott Base. À bord, Grant est un scientifique néo-zélandais qui connaît très bien le coin puisqu'il a travaillé plusieurs saisons sur Scott Base. Et comme il a aussi travaillé au Québec, il va nous parler en français de ses expériences polaires.
Bonjour, je m'appelle Grant Redvers. Je viens de Nouvelle-Zélande. À la base, je suis scientifique, mais je suis aussi marin. J'ai travaillé pendant quelques années sur les bateaux de recherche, surtout dans les hautes latitudes. Je suis sur le bateau Perseverance pendant cette expédition pour aider avec les programmes scientifiques, mais aussi pour collaborer avec quelques chercheurs de Nouvelle-Zélande. Donc, on a ramené quelques projets à bord du bateau, surtout récupérer deux moorings océanographiques, aussi pour un programme d'échantillonnage de l'air, pour faire une analyse des isotopes de carbone, pour regarder le flux de carbone dans l'océan Sud.
Ok. Donc ça, c'est ce que tu fais actuellement avec nous sur le bateau. Et donc, on est passé dans McMurdo Sound et on a vu les deux grosses stations scientifiques, McMurdo, les Américains, et Scott Base, les Néo-Zélandais. Et toi, tu as travaillé plusieurs saisons sur la station Scott. Dis-nous un peu ce que tu y as fait.
Oui, à la fin des années 90, j'ai passé trois étés sur la base Scott, la base scientifique de Nouvelle-Zélande. Le premier été, j'ai travaillé comme technicien. On avait deux techniciens sur la base, deux pour l'été et une qui reste pour l'hiver. On s'occupe de toutes les expériences sur la base. Le programme atmosphérique, biologie, un peu de tout. Après, j'ai fait mes maîtrises de sciences de l'environnement. J'ai fait une étude sur les zones noires qui sortent de la base. C'était une étude pour regarder les impacts sur la mer des zones noires. Et le but, c'était pour avoir les données pour faire le dessin pour le système de traitement pour les zones noires qui sortent la base. Donc j'ai fait deux étés à faire ces études-là.
Et bon, quand on visite ces deux bases, on a l'impression, surtout pour la base américaine, c'est énorme, hein, c'est une ville. Il y a combien de personnes en été en hiver, tant à McMurdo qu'à Scott?
Oui, McMurdo, c'est une grosse base. En été, ils ont entre 1200 et 1500 personnes sur la base. En hiver, ils ont 200, 250, quelque chose comme ça. Sur le Scott Base, en été, on a jusqu'à 180, mais en hiver, ça diminue entre 12 et 24 personnes.
Ok, donc Scott Bay, c'est à peu près l'échelle de la base française de Dumont-d'Urville, là qu'on va aller voir bientôt, là,
24 personnes en hiver, une bonne centaine en été, mais McMurdo, c'est une ville, quoi, c'est impressionnant. Est-ce que tu sais, en gros, les différentes activités qu'il y a sur cette énorme base américaine?
Oui, les bases américaines, bien sûr, ils font un gros programme scientifique, mais aussi, surtout, c'est une base logistique. C'est tous les avions qui vont au pôle sud, ils arrêtent à McMurdo pour faire plein de fuel. Et c'est un peu le centre de tous les vols qui vont sur le terrain pour faire des activités avec les chercheurs. Donc, c'est un peu un gas station. Mais sur place, ils ont des gros programmes de recherche aussi.
Oui, effectivement, on a vu qu'il y avait des énormes réservoirs de fuel et de kérosène. D'ailleurs, on a vu un cargo là, qui déchargeait, comme on serait cru dans un port, on serait cru au Havre, hein, un cargo à quai avec les grues et les camions. Effectivement, ça n'a rien à voir avec nos petites bases. Et comme tu le dis, oui, c'est une base logistique relais parce qu'il y a un gros aéroport, hein, c'est ça?
Oui, en fait, il y a trois aéroports. Le début de saison, début d'été, les avions atterrissent sur la glace de mer jusqu'à fin novembre. Et après, quand la glace de mer ça craque et ça fonde, ils construisent une autre piste d'atterrissage sur le Ross Ice Shelf. C'est sur la neige, donc les avions à ce moment-là, ils atterrissent avec les skis. Il y a une période à mi-été quand c'est trop chaud et ils ferment les pistes. Donc il y a une période de 2 semaines, ils appellent ça la gap, qui c'est pas possible de faire des vols. Et après, ça régèle, ils continuent à faire des rotations avec les avions, surtout les avions américains.
Oui, et donc vous, la base néo-zélandaise, vous partagez cet aéroport avec les Américains. Et comme tu l'as dit, c'est surtout une base intermédiaire pour aller ravitailler la fameuse base américaine qui est juste au pôle sud, à 90 sud, là, qui est Scott Amundsen. Cette station n'est ravitaillée qu'en avion. Il n'y a pas de raid terrestre à l'inverse des stations françaises. Et c'est vrai que de Dumont-d'Urville, quand on n'arrive pas à rentrer avec l'Astrolabe, enfin moi ça m'est arrivé une fois, de repasser par l'avion, par McMurdo, pour rentrer en Nouvelle-Zélande. Donc c'est grosse activité dans cet endroit.
Grant, parlons maintenant des deux mouillages océanographiques de tes collègues néo-zélandais que nous devions récupérer avec le Perseverance.
Il y a deux projets sur le bateau, sur le Perseverance en ce moment. C'est une collaboration avec les chercheurs de Nouvelle-Zélande. On a essayé de récupérer deux moorings. Le premier, qui était sur un seamount au milieu de Antarctic Circumpolar Current, le ACC. Et ça, c'était pas facile de faire cette manip. C'était au milieu de l'océan Sud. Donc, malheureusement, la buoy acoustique qui déclenche le mooring qui est attaché au fond, ça n'a pas marché. On a parlé, on a fait un contact avec le mooring, avec notre appareil acoustique, mais il n'a pas déclenché. Donc, ça, c'était un peu dommage.
Ouais, ok, Grant. Alors, mooring on a seamount in the ACC, je vais traduire. C'est donc un mouillage situé sur une montagne sous-marine dans le courant circumpolaire. On en avait déjà parlé dans une chronique précédente, juste après l'échec de la récupération, et notre conclusion était qu'il avait été probablement décapité ou déplacé par un filet de chalut, car la zone est très fréquentée par les navires de pêche. Bon, parlons maintenant du second mouillage dans McMurdo Sound.
Et aussi le deuxième mooring qui était au fond de McMurdo Sound, qui était dans cette zone-là pour mieux comprendre de l'eau très froide et dense qui sort sous le Ross Ice Shelf. Cette mooring s'était déployée en 2023, donc ça fait déjà 2 ans que c'est dans l'eau. Et on a fait la même manip, on a essayé de déclencher avec un buoy acoustique, mais on pense que l'appareil, les batteries sont mortes. Donc, on a essayé de faire un dragage. Ça, ça veut dire qu'on traîne une butte d'à peu près 300 mètres derrière le bateau avec des crochets et un poids. Et on a fait des tours sur le point GPS plusieurs fois. On a passé deux jours sur place à faire des tours. Alors, c'était entre les glaçons, des blocs de glace de mer, donc c'était pas tout à fait facile. Par contre, on n'a pas accroché cette mooring, donc c'est difficile la pêche dans l'océan Sud. Hein.
Oui, oui, tous les mouillages en région polaire, d'expérience, on a un taux de perte de 20 à 30%. C'est comme ça, c'est la règle du jeu. Et notamment, alors celui qu'on n'a pas récupéré au fond de McMurdo Sound, enfin, la conclusion qu'on arrive à en tirer, donc il a disparu. Et c'est probablement qu'il y a un iceberg qui est passé au-dessus, et les icebergs, ça a facilement 100, 200, 300 mètres de quilles sous l'eau. Et ça a décapité le mouillage ou ça l'a emmené ailleurs. Donc, il est mort, quoi. Ça ne sera jamais récupéré, mais c'est comme ça.
Bon, heureusement, on n'a pas eu que des échecs pendant cette mission. Donc, Grant va maintenant nous parler de ses manips de prélèvement d'air atmosphérique et de neige. La scène se passe sur le pont, par tempête de neige. Du coup, pour mieux se comprendre dans le bruit du vent, on a fait l'interview en anglais.
It's just blowing 40 knots of wind, snowing horizontal, and you're taking snow samples. Can you explain why?
Yes, so I'm taking some snow samples.
Oui, je suis en train de prélever des échantillons de neige pour l'analyse des polluants microplastiques. On fait ça pour des scientifiques américains de la Scripps Institution de San Diego. Je collecte des échantillons de neige, d'air, d'eau de mer tout au long du voyage.
All right. And this is the right weather condition to have 40 knots of wind and snow horizontal to do that?
Well, bon, je profite du fait qu'il y a de la neige, mais ce ne sont pas les conditions les plus faciles pour faire ces prélèvements. On verra bien les résultats.
All right, that's true. The deck of the ship is right full of snow now.
Bon, de retour au calme, on va reparler français.
Grant, on a une expérience en commun d'il y a bientôt 20 ans là, mais alors pas en Antarctique, mais en Arctique. Tu peux nous raconter un peu ça?
Ah oui, bien sûr. On a passé un peu de temps sur Tara pendant la dérive arctique ensemble. Donc entre 2006 et 2008, moi j'étais le chef d'expédition de Tara Arctique. Toi, tu étais impliqué dans tous les programmes scientifiques. Donc on a passé un bon moment ensemble sur Tara, au milieu de l'océan Arctique. Voilà, on a fait plein de choses, un peu les mêmes manips qu'on fait en ce moment sur le Perseverance. On a fait des CTD tous les jours, envoyer des sondes dans l'atmosphère pour profiler l'atmosphère jusqu'à 2000 mètres de hauteur. Donc voilà, ça fait 20 ans maintenant.
Exactement, ok, merci.
Et oui, pour les marins polaires, le monde est petit, hein. Dans la prochaine chronique, nous quitterons le McMurdo Sound en route vers le nord et d'autres aventures. Donc, à bientôt, chers auditeurs. Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
Ok. Ouais, Sergio, c'est clair, c'est ça?